Vous écoutez France Culture.
Politique, nous recevons aujourd'hui Marie-Noëlle Lienemann, ancienne secrétaire d'État au logement, sujet qui, avec d'autres questions sociales, est toujours resté une priorité pour elle. Elle est d'ailleurs présidente depuis 2003 de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'HLM. Députée également au Parlement européen, élue pour la première fois en 1984 et membre du Parti socialiste. Marie-Noëlle Lienemann est aussi vice-présidente de la région Nord-Pas-de-Calais, où elle se trouve aujourd'hui dans nos studios de Bleu Nord. Et je précise que nous enregistrons cette émission dans les conditions du direct, évidemment. Nous sommes vendredi soir. Bonjour madame.
Bonjour.
Avec vous, nous allons évoquer l'actualité politique, sociale et européenne au lendemain d'un mouvement social important, le premier contre les réformes souhaitées et engagées par Nicolas Sarkozy et son gouvernement. Et alors que s'achève aussi à Lisbonne une importante réunion entre les 27 ministres des Affaires étrangères qui devraient mettre un terme aux discussions, déjà 4 ans, discussions sur un nouveau traité, 17 fois simplifié, de l'Union européenne. Vous nous direz bien sûr ce que vous pensez des premières décisions annoncées. Et enfin, nous reviendrons sans doute, si vous le souhaitez, sur le regard très sévère, on va le dire tout de suite, que vous portez sur l'échec de votre parti et surtout d'ailleurs sur l'échec de sa candidate. Mais Lionel Jospin, en son temps, avait subi vos critiques aussi vives. C'était après 2002. Nous reviendrons aussi sur les leçons qu'en tire le mouvement Gauche Avenir auquel vous venez d'adhérer, pour vous entendre et pour vous interroger. Philippe Reynaud, professeur de sciences politiques, Université Paris 2, École des hautes études en sciences sociales. Jacques Généreux, économiste, professeur à sciences politiques. Et Éric Mandonnet, de l'hebdomadaire L'Express, hebdomadaire partenaire de notre émission. C'est le rendez-vous des politiques, c'est chaque samedi à 11h. Dominique Rousset, bonjour à tous. Autoportrait avec vous, Marie-Noëlle Lienemann. C'est vrai que ce n'est pas très commode de vous avoir à distance, mais nous ferons comme si vous étiez avec nous en studio. Première question, et vous nous en dites ce que vous souhaitez, c'est une partie de votre biographie. Comment ou pourquoi êtes-vous entrée en politique ?
Écoutez, je suis entrée en politique assez jeune, finalement. J'étais d'une famille où on était militants, avec d'ailleurs deux grands-pères très opposés. J'avais un grand-père de gauche, qui était historiquement le candidat de la SFIU à Belfort, et un grand-père de droite, qui était un Alsacien catholique, qu'on appelait les Tardieusards. Donc j'ai toujours vécu dans une famille passionnée, où on débattait, et on était très respectueux de la liberté de chacun. Et puis j'avais une grand-mère qui avait été déportée de la résistance, qui avait pris de grosses responsabilités dans la résistance, et j'étais très marquée par cette histoire. Alors moi, je me suis engagée en 67, au moment de la guerre du Vietnam. J'ai participé au comité Vietnam, et puis en mai 68...
Vous étiez quoi, très jeune étudiante ?
Oui, j'étais en 67, je devais être en seconde. Mm-hmm. Et en première, j'ai participé aux événements de mai 68 en étant déléguée de mon lycée. Mais je n'étais pas dans les courants. J'ai toujours cru à la liberté, j'ai toujours cru à la démocratie et même à ce qu'on appelait à l'époque la démocratie bourgeoise, au vote. Et donc, j'ai été radicale dans mes points de vue, mais très attachée au fonctionnement normal, si je puis dire, de la vie politique, avec des partis. J'ai donc adhéré au Parti socialiste quand je suis rentrée à l'école normale supérieure en 71. Voilà, donc c'est un combat de longue date. Et j'ai adhéré au PS pour rénover le PS et je constate que quelques années plus tard, je suis toujours devant la même tâche.
Et vous êtes toujours au PS pour rénover le PS.
Voilà.
Autre question, qui admirez-vous, Marie-Noëlle Lienemann ? Et j'ai lu quelque part, mais c'est vous bien sûr qui allez ajouter d'autres noms, que vous admiriez beaucoup Jésus. Vous êtes croyante,
oui,
vous avez une éducation religieuse.
Oui. On ne peut pas dire que j'ai une éducation religieuse, mais dans ma famille, il y avait autant de francs-maçons que de catholiques. Mais tout le monde dans ma famille était toujours tranché. on avait un point de vue tranché sur les choses. Et donc, moi, d'une certaine façon, j'étais un peu un compromis dans la famille, puisque je suis très tranchée à gauche et en même temps, j'ai plutôt dans l'aile catholique. Oui, bon, bah, bien sûr, mais ça, c'est plutôt de l'ordre de l'intime. Dans l'admiration des personnes, j'ai un champ assez large. Quand j'étais plus jeune, j'admirais bien sûr Einstein. Et j'ai toujours admiré les scientifiques. Je suis admirative de ceux qui portent du progrès technique, humain. Et il se trouve que dans ma vie personnelle, j'ai eu à toucher de près des grands chirurgiens. Et moi, je suis très admirative des hommes et des femmes qui aujourd'hui sauvent tant de vies humaines avec des progrès scientifiques fabuleux, par exemple dans la cardiologie ou dans la médecine. Alors, c'est plutôt cela. Et puis en politique...
On peut ajouter que vous avez une formation de scientifique, hein, vous êtes normalienne
chimie.
Oui,
j'ai fait en physique-chimie, oui.
Voilà.
Et puis en politique, j'ai plutôt toujours été très touchée par les courants non violents. J'admirais beaucoup Gandhi, alors sans doute plus le mythe peut-être que la réalité. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Jean Jaurès. Alors, je suis une fanatique de Jean Jaurès. Quand je relis tout ce qu'il a écrit, j'ai l'impression que c'est encore d'une totale actualité. Et dans un autre domaine, j'ai beaucoup d'admiration pour Madame Geneviève Antonius de Gaulle, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, parce que ce petit bout de femme toute maigre, issue de milieux finalement assez favorisés, qui crée à Thédé Carmonde et qui ne l'a jamais prise, j'aime bien ce genre de personnage.
Ma troisième question, et puis on engagera la discussion avec nos autres invités, ce qui vous révolte, Marie-Noël Lindemann?
Tellement de choses.
Qu'est-ce qui ne doit pas exister aujourd'hui?
Tellement de choses. Alors évidemment, la première chose qui était la base de mon engagement, c'est toutes les inégalités sociales, c'est les inégalités humaines, les gens qui ont faim, les gens qui n'ont pas des conditions de vie dignes, les scandaleuses inégalités entre des gens très riches et des gens très pauvres. Ça reste pour moi la grande indignation. Et chaque fois qu'il y a une injustice depuis ma prime enfance, de ce côté-là, ça crée chez moi des mouvements très très forts. Je suis maintenant aussi, et depuis de nombreuses années, très scandalisée par cette vision à court terme de l'humanité qui croit pouvoir tirer sur la planète, sur les ressources existantes, en se moquant éperdument des conséquences sur le long terme. Je suis très inquiète des grandes déstabilisations écologiques et ça me révolte parce que il y a encore 15 ans, on pouvait dire les gens n'étaient pas conscients. Là, maintenant, on sait. On sait, il n'y a pas de certitude sur tout, mais il y a assez de certitude pour savoir qu'il faut agir vite et on ne le fait pas.
Merci beaucoup pour ces réponses très, très directes. Éric Mandonnet, on revient à l'actualité.
Oui, la première question portera sur les mouvements sociaux actuels. Je voudrais essayer de comprendre ce que le Parti socialiste pense de ces mouvements. J'ai bien lu les déclarations des uns et des autres. François Hollande, le premier secrétaire, la réforme des régimes spéciaux est nécessaire. D'autres, en revanche, critiquent le principe de l'alignement des régimes spéciaux. Est-ce que, finalement, critiquer la méthode gouvernementale, c'est le seul point commun qu'ont tous les socialistes pour porter un regard sur ce qui s'est passé ce jeudi, parce que sur le fond, ils sont en désaccord?
Je crains que votre diagnostic soit assez juste. Je pense que d'ailleurs, sur cette question des retraites, ce n'est pas d'hier. Je me souviens, d'ailleurs, j'écris dans le livre Au revoir Royal, où évidemment, je critique la candidate, mais surtout, je me pose la question, comment en est-on arrivé là? Je me rappelle que quand il y a eu le premier plan Juppé, d'ailleurs même sur les plans Balladur et autres sur les retraites, on avait toute une partie des socialistes qui nous disaient finalement c'est un bon plan, mais la méthode n'est pas bonne parce qu'on ne négocie pas avec les syndicats. Et d'ailleurs, ce qui fait que quand on est arrivé au pouvoir, au lieu de remettre en cause un certain nombre de choses et de proposer une contre-réforme des retraites, car à l'évidence, il y a un problème de financement, il y a un problème d'organisation, il y a un problème d'évolution des conditions de travail, donc peut-être des méthodes de calcul et d'organisation des retraites, à ne pas vouloir affronter cette question délicate, on en reste à la forme et au fond, on laisse glisser progressivement vers un système tout à fait injuste et probablement libéral. Je rappelle que les mêmes OPS me préconisaient une part, ils disaient, de capitalisation, donc de fonds de pension. Et on a vu quel désastre c'est en train de créer ici ou là, et où certains États sont en train de revenir en arrière, comme la Grande-Bretagne, qui est en train de faire cotiser ses entreprises. Donc, je pense que sur cette question, le Parti socialiste, une partie de la direction, est dans l'embarras, et je ne comprends pas. Pour moi, les choses sont relativement simples. Premièrement, on a bien vu quelle est la stratégie de la droite et des libéraux sur cette réforme des retraites. C'est de jouer ce que j'appelle la tranche de saucisson. On fait reculer d'abord le privé, le maillon le plus faible. On laisse d'une certaine façon le public moins touché. Et puis ensuite, on touche le public ou les régimes spéciaux. Et puis le coup d'après, on va repartir sur une partie du privé. C'est-à-dire c'est une stratégie qui essaie de faire reculer les avantages, la construction du système de retraite français de façon progressive, au lieu de préconiser une nouvelle philosophie de répartition, de calcul des retraites par répartition. Et une fois qu'on a cette philosophie, eh bien, il faut négocier les phases de transition qui s'imposent entre les régimes acquis par les uns et par les autres et la vision d'ensemble qu'on peut avoir sur l'avenir des retraites.
Ouais.
Voilà. Et ça, le Parti socialiste ne veut pas le faire parce qu'au fond, il n'est pas au clair sur la capacité qu'on a de modifier le rapport capital-travail, parce que c'est ça le fond du problème.
Ouais. Philippe Reynaud, puis Jacques Généreux, de commentaires ou autres questions pour vous ?
Je suis un peu surpris de vous entendre. D'abord parce qu'il me semble... Moi, je comprends très bien qu'on veuille modifier le rapport capital-travail et qu'on considère qu'il y a de graves problèmes de distribution des richesses dans la société d'aujourd'hui. Mais enfin, les retraites, c'est quand même essentiellement un système, surtout si c'est des retraites par répartition, qui est financé par les salariés eux-mêmes. Et pour l'instant, l'essentiel des réformes qui ont été faites, ce sont des réformes qui ont consisté, pour le principal, à augmenter la durée de cotisation. Alors, l'augmentation de la durée de cotisation, me semble-t-il, elle est liée à l'augmentation de la durée de la vie, au fait que les gens également entrent sur le marché du travail le plus tard possible. Et pour l'instant, à un ou deux points près, bon, on peut discuter, les régimes des fonctionnaires et les régimes spéciaux dans ce qui fait leur caractéristique, c'est-à-dire un mode de financement dans lequel l'État donne considérablement, n'ont pratiquement pas été affectés par les réformes en cours. Alors, je ne vois ni ce que ces réformes ont de libéral, ni quelle philosophie pourrait se substituer à ce qui est en train d'être fait. J'ai l'impression, si vous voulez, je vous parle sincèrement, que vous avez simplement, sur cette question, une posture un peu plus radicale que vos camarades, qui mesure très exactement votre éloignement du pouvoir.
Non, pas du tout. Je vais vous dire à quel point je ne suis pas éloignée du pouvoir, pour vous donner un exemple. D'ailleurs, je crois que Jacques Généreux n'est pas tout à fait d'accord avec moi sur ce point.
C'est ce qu'on va voir juste après.
Je vais vous donner l'exemple de ce que j'ai fait dans le logement. Il y a un problème...
Là, il s'agit des retraites, madame.
Je vous parle... Ah ben, vous allez voir, monsieur, qu'il s'agit absolument des retraites. Vous savez qu'aujourd'hui, les régimes de retraite Agirc-Arrco sont en prévision de déficit extrêmement importante. Et on s'est donc posé la question de comment, avec les partenaires sociaux, on pouvait contribuer à leur financement à terme, c'est-à-dire au moment où le déficit est prévisionnel. Et nous avons mis en place ce qu'on a appelé une foncière logement, c'est-à-dire on a pris le prélèvement existant du 1% logement. On a placé cet argent pour acheter des logements qui vont construire ou produire des logements pour les catégories intermédiaires basses, en particulier dans les villes. Et dans 15 ans, ces logements seront vendus. Ils sont prévus pour être vendus, ce n'est pas du HLM, ils sont prévus pour être vendus. Et la plus-value qui sera faite, et par ailleurs la somme qui sera dégagée, sera versée au régime Agirc-Arrco pour l'équilibre des retraites. Donc, vous voyez que sur la manière de gérer, de comment on trouve de l'argent pour équilibrer les régimes de retraite, il y a des méthodes tout à fait originales qui peuvent être pensées. Et je pense pour ma part que le fonds de réserve des retraites aurait pu être un outil beaucoup plus mobilisé pour être à la fois utile pour un certain nombre de placements pour soutenir certains secteurs de l'économie et d'autre part pour prévoir les financements qui seront nécessaires le moment venu au regard du déficit démographique ou en tout cas du déséquilibre démographique lié au vieillissement. Mmh. Alors moi, sur le fond des réformes de retraite, je fais des constatations simples. Premièrement, certes, on vit plus longtemps, mais moi, tant qu'il y a massivement des jeunes au chômage et des chômeurs en France, je considère que le pays a plus d'efforts à faire de mettre tout le monde au travail que de se mettre en situation de faire travailler plus longtemps ceux qui travaillent déjà et qui ne souhaitent pas poursuivre. Deuxièmement, ce qui importe, c'est la part du produit intérieur brut ou de la richesse que le pays consacre à ses personnes âgées et à ses retraites. C'est ça la question fondamentale qui doit être posée. Et ensuite, comment répartissons-nous le qui paye, le qui en profite ? Mais il n'est pas vrai de dire que notre système actuel est beaucoup plus déficitaire que certains systèmes de retraite autres. Il faut donc mettre dans notre système de retraite plus d'unités qu'il n'y en a aujourd'hui.
Ouais. Je voudrais savoir pourquoi Jacques Généreux ne serait pas d'accord avec vous. Peut-être qu'il va nous le dire lui-même.
Parce que je crois que lui, il est assez peu favorable à ce qu'une partie du financement des retraites puisse être liée à l'évolution de la bourse ou en tout cas du marché.
Ce qui est votre proposition, oui, Jacques Généreux.
D'une certaine façon, pour une partie, hein, vous l'avez bien compris.
Moi, j'ai tendance à penser en effet qu'on a suffisamment d'autres moyens de trouver les ressources financières pour éviter ça. Ce n'est pas une opposition de principe. À partir du moment où on met tout le monde au travail, au lieu de faire travailler plus certains pour qu'ils gagnent plus, mais où on met tout le monde au travail, à la limite pour que tout le monde travaille un petit peu moins, soit moins stressé, qu'il y ait moins de suicides au travail, en régime de plein emploi, on doit pouvoir financer les retraites. Mais cela dit, il y a une ambiguïté dans ce que vous dites, Marie-Noëlle Lienemann, par rapport à au débat qui est aujourd'hui, qui est celui des régimes spéciaux. Il y a deux positions possibles. Il y a une position, alors c'est peut-être la vôtre, qui est de dire, certes, après tout, il n'est pas normal qu'il y ait de tels écarts ou de telles inégalités dans les régimes. Donc, il faudrait sans doute réviser ces régimes, mais à condition que ce soit dans le cadre d'une réforme globale d'un système de retraite qui serait juste et qui ne soit pas la réforme Fillon, c'est-à-dire qui n'adopte pas comme seule solution que de l'allongement de la durée des cotisations, ce qui peut être une première option. Maintenant, l'autre option peut être aussi de dire qu'il n'y a pas de raison de remettre en cause les régimes spéciaux, notamment parce que les gens sont entrés là-dedans et que ça faisait partie de leur contrat de travail, parce que ça ne concerne finalement que quelques centaines de milliers de personnes et qu'on en fait tout un plat alors que c'est pas tragique. Alors, quelle est votre position, justement, entre ces deux options ?
Ma position est de dire que pour l'avenir des nouveaux recrutés à la SNCF ou dans les entreprises, je pense qu'il faut un système qui s'apparente à une nouvelle conception générale de la retraite, une réforme générale des retraites dans laquelle les nouveaux entrants devront avoir un cadre qui est évidemment un peu différent de ce qu'il est aujourd'hui. Mais dans la phase de transition, je considère que pour une large part, ceux qui ont aujourd'hui les régimes spéciaux ont premièrement eu un cadre dès le début de leur carrière, mais surtout, pour une part, ils ne sont pas aussi injustes et inégalitaires qu'on nous le décrit. Et que dans certains cas, quand on regarde le niveau du montant de la cotisation qu'ils payent, les conditions de travail qu'ils ont et qu'on compare à certains autres secteurs du privé, les fameux privilèges sont beaucoup moins importants qu'on nous l'indique. Et j'observe, comme vous, qu'on cible sur ces populations-là, alors même que nous savons qu'il y a d'autres régimes qui sont hyper déficitaires ou au moins d'autres secteurs qui sont hyper déficitaires et certains secteurs qui sont scandaleux. Que fait-on sur les retraites chapeaux? Rien. La taxation des stock options pour cotiser à la protection sociale, j'entends dire que ça aura lieu. Le niveau de taxation qui semble prévu a l'air relativement dérisoire. Que fait-on quand on sait très bien que les artisans commerçants sont hyper déficitaires et que le déficit des régimes privés, des régimes comme celui de la sécurité sociale, de la SNCF, provient pour une large part de l'externalisation qui s'est multipliée dans ces entreprises,
oui.
Car le système avait été créé à un moment où le nombre de salariés était inclus dans l'entreprise et que maintenant, avec l'externalisation, le nombre de salariés intervenant directement sur le champ est évidemment plus limité. Donc, pour ma part, je considère pas illégitime le système actuel des retraites et je souhaite que pour qu'on y voit clair et que ce ne soit pas un système d'échelle de perroquet de recul en recul, on mette en place une réforme globale des retraites et qu'on travaille sur des transitions pour ceux qui sont déjà au travail.
Encore deux questions dans le domaine social, Marie-Noëlle Lienemann, mais comme on l'a dit, on souhaiterait aussi vous entendre sur les questions européennes. Je voulais savoir, vous êtes spécialiste du logement, hein, je l'ai dit, vous avez été secrétaire d'État au logement et ministre du logement, vous êtes aujourd'hui présidente d'une importante fédération de logements sociaux. Vous l'avez souvent déclaré, à peu près tous les gouvernements sont responsables peut-être de la situation aujourd'hui du logement et plus globalement des logements sociaux en France. Manque de construction de logements et on est dans une situation, c'est vrai, préoccupante pour beaucoup de Français. Que diriez-vous aujourd'hui de la situation telle qu'elle semble se dessiner vers peut-être une meilleure prise en compte d'un droit au logement? Et vous avez été de ceux qui ont fortement plaidé pour le droit au logement opposable à inscrire dans la Constitution dès janvier prochain.
Je crois que le pays a besoin maintenant de s'imposer une obligation de résultat. Et que cette obligation de résultat, c'est de dire tout citoyen ou toute personne vivant sur le territoire national a droit à un logement digne et décent. Simplement, derrière cette idée-là, il y a deux façons de concevoir les choses. Il y a une conception à l'anglo-saxonne qui est de dire on prend les très pauvres, on essaie de faire de l'hébergement d'urgence amélioré, on s'occupe que de cette catégorie-là. Le reste, c'est grosso modo le marché et quelques aides à la personne qui peuvent réguler. Ça ne marche pas. Et c'est, je crois, en plus très négatif parce que ça oppose les très pauvres aux, si je puis dire, salariés moyens, mais moyens-bas, smicards, jeunes qui démarrent, etc. Donc moi, ma thèse, c'est de dire qu'il est temps maintenant d'avoir une politique globale du logement beaucoup plus ambitieuse et qui traite l'ensemble du maillon de la chaîne. Et le préalable, c'est les prix. Il n'y a eu aucune régulation des prix de l'immobilier et du secteur de l'immobilier des loyers depuis maintenant 20 ans.
Mais est-ce qu'il faut aller, comme vous l'avez proposé, je crois d'ailleurs, jusqu'à taxer des plus-values, jusqu'à taxer
il faut une taxation qui soit dissuasive sur la spéculation. Qu'est-ce que le privé fasse du profit quand il place dans la pierre, légitime. Il y a un certain niveau de profitabilité de l'investissement pierre qui doit être garanti. Au-dessus de cela, il faut qu'impérativement la fiscalité soit d'abord progressive et ensuite dissuasive, voire confiscatoire quand il s'agit d'augmenter en 2 ans la valeur d'un bien de 160% comme on le voit dans certains secteurs. Donc on a fondamentalement besoin de mesures antispéculatives, d'une fiscalité dissuasive sur la spéculation et on a même besoin de mesures d'encadrement des loyers, des coûts à certains moments quand ça dérape. Je rappelle qu'en 1974, Raymond Barre avait plafonné la hausse des loyers, même dans le privé, parce que ça dérapait complètement. Or c'est ce qui s'est opéré et ce qui continue à s'opérer en dépit de ce qu'on lit dans les journaux. Cette année, au dernier trimestre que nous connaissons, il y a eu une hausse des loyers de plus de 2,7%. Évidemment, aucune aide, aucun revenu modeste et moyen, aucun salaire et même pas l'inflation n'a évolué à ce point. La dépense des familles est passée en moins de 5 ans de 19% consacré au logement à plus de 25% consacré au logement maintenant.
Donc une priorité,
6 points de pouvoir d'achat.
Ouais. Une priorité absolue selon vous pour ce gouvernement?
Ah, pour moi, la régulation des prix doit être la priorité absolue. Et je suis très inquiète des propos de Sarkozy. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les HLM?
On ne va pas trop le développer, excusez-moi.
La précarité quand même. On nous dit la solution pour régler ça, c'est de précariser les baux HLM, de faire que les gens devront partir au bout de 6 ans. C'est de donner au privé les mêmes avantages qu'au public et transformer les HLM en assistance sociale pour les très pauvres. Ça veut dire, avec un discours absurde sur tous propriétaires, qui veut dire en fait tous endettés. Hein. Moi, je suis pour la propriété, mais pas pour l'endettement de force. Et deux, pour un système qui soit un système où on équilibre le logement social, l'autre logement, et où on a une part pour le privé. Mais il est clair que le privé ne réglera jamais bien l'ensemble des problèmes sociaux.
Bien, avec, comme vous le réclamiez aussi, une obligation de résultat pour la République en matière de logement. Ça fait partie de vos réclamations. On va passer au dossier européen, pardon de ne pas le développer davantage. On aurait aimé aussi vous entendre sur les syndicats. Peut-être qu'on aura le temps de le refaire un peu plus tard. Avec Eric, donc ce Conseil européen... cette rencontre des ministres des Affaires étrangères à Lisbonne.
Et des chefs d'État et de gouvernement,
donc 19 et 20 octobre.
Jeudi, j'avais du mal à comprendre la position du Parti socialiste sur les mouvements sociaux. Je me suis dit vendredi, on change de sujet, c'est le traité de Lisbonne, c'est l'Europe. Là, les choses vont être plus claires. Et on a l'impression, à lire les réactions des socialistes, qu'heureusement qu'il y a cette idée que le Parti socialiste réclame un référendum, heureusement surtout que cette idée ne sera pas suivie, parce qu'une nouvelle fois, le Parti socialiste, sur le traité de Lisbonne, s'il y avait un référendum, éclaterait. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le seul point commun de la position du Parti socialiste face au traité de Lisbonne, c'est de réclamer un référendum ?
D'abord, la première chose, c'est que c'est très important
pour le non. Hein. Non, oui. Oui.
C'est très important de revendiquer le référendum. Parce que justement, on l'a bien vu, entre ce que pensait le Parlement, les partis, et ce que pensait le peuple, ben, il y avait un décalage. Or, ce référendum, il a fait un vote non de nos concitoyens. Alors, je rappelle qu'au premier tour des présidentielles, tous les candidats, hors Sarkozy, étaient favorables à un référendum. Ça fait plus de 65 à 68% des Français.
Oui, mais donc 53% de ceux qui ont voté au deuxième tour pour Nicolas Sarkozy savaient que ce traité ne
Oui, mais attendez, vous aviez le choix. Vous pouviez être pour Sarkozy, pour tout le reste, sans être pour ça. Bon, donc qu'est-ce que c'est que cette démocratie qui nous explique, c'est le paquet cadeau, tout ce que je vous ai dit pendant la campagne, vous n'avez plus rien à dire pendant 6 ans. Mais reprenons même l'argument de Sarkozy. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Mini-traité. Il n'y aura que ce qui est consensuel. Donc, il n'y aura pas la partie 3 sur les politiques communes. Or, j'ai passé 8 heures à lire le document, parce qu'évidemment, il est tellement compliqué.
Le document simplifié.
Le document dit simplifié. J'ai mis 8 heures, parce qu'il est tellement compliqué pour essayer de retrouver, en considérant l'article temps, vous recherchez l'article, etc. Oui. La réalité...
On confirme. Il fallait au moins 10 ou 12 heures pour le précédent, voilà. Mais c'est quand même
voilà.
Pas mal.
Et là, vous arrivez à un système où vous avez exactement le texte de la Constitution, en tout cas pour la partie 3. C'est-à-dire toutes les politiques que nous avons contestées, celles où nous ne voulions pas revoter pour des politiques sur lesquelles nous sommes en désaccord et pour lesquelles toutes les modifications vont dans le même sens, c'est-à-dire accroître le libéralisme, elle est totalement dans le texte. Ce texte ressemble comme deux gouttes d'eau à la Constitution, sauf qu'il ne s'appelle plus Constitution, sauf qu'il n'y a plus les symboles de l'Union, ce qui par ailleurs n'avait jamais été contesté en France, qui était le drapeau, l'hymne, etc. Qu'on a changé le nom de ce qu'on appelle des lois cadres qui deviennent des directives, c'est-à-dire il y a une histoire de vocabulaire. On nous prétend qu'il n'y a pas la concurrence libre et non faussée. Il y a un protocole spécifique qui contient 5 lignes. Et ce protocole, il ne dit qu'une seule chose, la concurrence libre et non faussée oriente toutes les politiques de l'Union. Parce qu'on n'a pas voulu la mettre devant. Donc en réalité, on a un traité maquillé qui est un traité bis.
Vous ne répondez pas tout à fait.
Donc,
pas tout à fait la question d'Éric. Voilà, qu'est-ce que ça met le Parti socialiste devant
la situation
du non ou du oui ?
Je suis d'abord en train de dire, nous devons ne pas commencer à nous disperser pour savoir si oui ou non on veut un référendum. Il faut un référendum. Le président, on a une pression politique à mener pour que le président de la République soit en situation de faire un référendum. Mmh. Et cette situation politique, il faut d'autant plus le faire qu'il ne tient pas les promesses qu'il a dites. Il a dit, je vous l'ai promis, mais il nous a promis qu'il n'y aurait pas la partie 3 et que ça ferait consensus. Il nous a promis qu'il y aurait la Banque Centrale Européenne qui aurait davantage de capacité à être protectrice pour notre industrie. Il donnait l'exemple d'Airbus. Rien ne change sur la BCE et on voit bien que dans les faits, rien ne change non plus. Et il nous a dit en troisième point, il y aura la protection communautaire. Non seulement elle n'est pas dans le traité, mais elle est interdite par les textes du traité qui consolident l'insertion de l'Europe dans la grande mondialisation et dans le grand marché. Donc il ne tient pas ses promesses et nous devons refuser de ce vote parlementaire. Après, compris que ma critique sur le traité est assez aiguë.
Bien sûr. On va laisser Philippe Reynaud vous réagir à ce que vous venez de dire. Donc vous êtes clairement pour un référendum, mais on ne sait pas si au Parti Socialiste, on décidera de réclamer un référendum. C'était la question d'Éric Mandonnet, je la rappelle.
Pour l'instant, sur le référendum, c'est la position du Parti Socialiste. On l'a revendiqué pendant la campagne. Tous les candidats, à part Sarkozy, l'ont fait. Je n'imagine pas que le Parti Socialiste, qui dit toujours il faut promettre pendant les campagnes ce qu'on peut faire, fasse l'inverse une fois que la campagne est passée.
Mais ça peut être un débat interne quand même, Philippe Reynaud.
Vous ne l'imaginez pas, mais vous avouerez que c'est des choses qui ont pu néanmoins arriver.
Ah ben, il y a toute une série de camarades du Parti Socialiste qui ont voté oui, qui pensent essayer de faire comme Sarkozy, de nous faire revoter oui, ni vu ni connu.
Philippe Reynaud.
Mais je crois justement que si je vous suis, ce qu'ils essaieront, c'est de ne pas vous faire revoter, c'est-à-dire simplement d'affirmer une position de principe favorable au référendum, en pensant que de toute façon il n'aura pas lieu, qu'ils ne se seront pas reniés pour autant et que tout ira bien.
Vous craignez cette solution ?
Est-ce que vous pensez, je sais bien qu'il est, comme disait l'ancien président de la République, il est difficile de faire des prévisions, notamment en ce qui concerne l'avenir, mais est-ce que vous pensez qu'il y aura un référendum ?
Jacques Généreux peut commenter.
Écoutez, personnellement, je ne sais pas si je pense qu'il y aura, mais je me bats de toutes mes forces pour qu'il y en ait un. Et je pense que quand nos concitoyens auront vu le texte. D'ailleurs, c'est pourquoi la première bataille qu'il faut mener, c'est une bataille d'échéance, car il ne vous a pas échappé que Sarkozy propose de le faire en décembre, ce qui laisse la place pour un large débat démocratique, comme chacun l'imagine. La réalité, c'est qu'il faut que les Français connaissent le texte et se fassent lucidement une idée sur ce qui se passe. Ils ont cru les médias, et honnêtement, la première, j'ai d'abord cru dans un premier temps qu'il y aurait pu la partie sur les politiques de l'Union. J'ai été effarée de voir qu'elles étaient maintenues. J'ai cru avec optimisme qu'au moins la référence à la concurrence libre et non faussée, ne serait-ce formellement, n'apparaissait plus. Elle était en fait cachée dans un protocole. Bref, quand les Français verront la vérité, c'est-à-dire que ce texte ressemble comme deux gouttes d'eau à la Constitution en moins européen, puisque ça consolide terriblement la subsidiarité et donc bloque les décisions du Parlement et de l'Union, personnellement, je crois qu'ils vont redécouvrir qu'on est en train de les tromper. Et donc, ils exigeront un
Jacques Généreux.
Oui. Marie-Noëlle Lienemann, il y a un moyen très simple pour que un référendum devienne un passage nécessaire pour Nicolas Sarkozy. Et il est entre les mains des socialistes, donc entre nos mains. Mais je pense qu'on ne va pas l'utiliser. Alors il faut être très clair. Pour qu'il y ait ratification par le Parlement européen, il va être nécessaire au préalable qu'il y ait une révision constitutionnelle. Pour cette révision constitutionnelle, il faut une majorité qualifiée que le président de la République n'est pas en position d'obtenir s'il n'y a pas aussi une bonne partie des députés socialistes qui votent cette révision constitutionnelle permettant la ratification ensuite par voie parlementaire. Si toute la gauche annonce qu'ils ne voteront pas cette révision constitutionnelle, sauf si le président prend l'engagement devant les Français qu'il y aura un référendum, eh bien, le traité ne sera jamais ratifié. Car s'il n'y a pas, si cette révision n'est pas votée, on ne peut pas procéder à la ratification parlementaire. Donc, ça veut dire que le traité n'est pas ratifié. Donc, en fait, je suis bien d'accord avec vous sur le fait qu'il faut demander le référendum, mais je suis parfaitement d'accord avec Philippe Reynaud sur le fait que, pour le moment, au Parti Socialiste, c'est une façon d'éviter de dire qu'évidemment, sur le fond, on est toujours divisé, puisque c'est le même traité. Donc il y a toujours les mêmes partisans du oui, les mêmes partisans du non. Et les partisans du oui ne veulent pas dire qu'ils ne voteront pas la révision constitutionnelle. Donc si la position du PS est véritablement une position commune en faveur du référendum, ça implique que la position commune soit aujourd'hui une position de chantage, d'ultimatum adressé au président de la République pour dire « nous ne voterons pas la révision constitutionnelle ».
C'est exactement ce que je souhaite. Je souhaite que le Parti Socialiste dise qu'il ne votera pas la révision constitutionnelle.
Il a peu de temps pour le faire. Donc, c'est vrai qu'il faudrait dans ce cas que cette déclaration soit assez rapidement faite. Il laisse le temps au Parti de s'organiser, comme vous le disiez.
Il faut d'abord le faire vite. Il faut déjà savoir si oui ou non, parce que vous savez qu'il y avait des débats pour savoir si oui ou non il fallait modifier la Constitution française. Nous plaidons sur l'idée, comme Jacques Généreux l'a indiqué, qu'il faut le faire, mais certains experts vous expliquent que ce n'est pas forcément indispensable. En tout cas, c'est le levier que possède le Parti Socialiste aujourd'hui pour imposer le référendum. Et je pense qu'il doit le faire et qu'il est fondamental qu'il le fasse. Mmh. Pourquoi il est fondamental ? Car même si on a voté oui, ce que je peux concevoir, même si on a voté oui, et quand on constate que c'est le même traité, on sait que les Français ont voté non. Et on ne doit pas, quand on est un leader politique, considérer qu'on peut faire passer son avis contre l'avis du peuple. Donc à partir de là, comme c'est à peu près le même traité, eh ben les Français doivent donner leur avis. Si oui ou non, eux, ils considèrent que ça répond à ce qu'ils avaient attendu. Oui. Et donc même ceux qui ont voté oui devraient être favorables à cela. Cela dit, Jacques Généreux se trompe sur un point. Il ne suffit pas que le total de la gauche se mobilise pour être sûr qu'on n'a pas la majorité des deux tiers sur la révision constitutionnelle.
Il y a aussi des gens à droite qui sont opposés.
Mais
hein.
Voilà, ce que j'allais dire, c'est qu'on peut espérer quand même que l'unité de la gauche sur ce point, qui est fondamentale du point de vue de la démocratie, de mon point de vue, permette de faire barrage à la stratégie de Sarkozy de faire passer ce traité, ni vu ni connu, sans le vote du peuple.
Question de Philippe Reynaud. Je voudrais ensuite qu'on parle du Parlement européen, qui est également concerné par cette rencontre de Lisbonne. Et j'ai rappelé que vous étiez parlementaire.
Il y a une chose que je n'ai pas très bien compris dans ce que vous avez dit. Vous avez dit, si je me trompe, qu'on ne peut pas aller contre l'opinion du peuple ou quelque chose comme ça.
Non, je pense qu'on peut très bien aller contre l'opinion du peuple. Je dis simplement que quand le peuple a donné son avis sur un traité, qui est quand même quelque chose qui va engager la France pour très longtemps, Il a voté par une voix qui est celle du référendum. Quand on lui propose un nouveau traité qui, comme deux gouttes d'eau, ressemble au premier, il me paraît normal que ce soit le peuple qui dise si oui ou non il considère que le nouveau traité correspond à ses attentes ou pas.
Philippe.
Je veux dire, il y a quand même une espèce d'équivalence des formes. Quand le peuple a dit non sur quelque chose, c'est pas la même chose que quand on l'a pas sollicité. Il a dit non sur ce traité, on peut pas aller contre
oui, mais enfin,
sa souveraineté.
Il a dit non sur un traité qui se présentait comme une constitution.
Ah ben c'est bien pour ça que je ne vous dis pas qu'automatiquement le peuple votera non. Je vous dis que simplement qu'à partir du moment
d'accord.
où c'est-à-dire
vous
admettez quasiment le même texte et qu'on a changé le mot constitution, c'est au peuple de dire s'il considère que c'est grave ou pas.
Il dira peut-être oui, mais
c'est pas du tout certain que ce soit la même chose.
Si ah ben moi je peux vous dire que je l'ai lu.
Il n'y a pas
de différence en Europe entre une constitution et un traité.
Il n'y a pas de différence entre Europe entre une constitution et un traité parce que de toute manière, ça ne peut être ni une constitution ni un traité. Ça peut être simplement quelque chose comme un pacte fédéral. Enfin, on entrerait dans des questions juridiques assez compliquées. Mais dans la mesure où il n'y a pas d'État fédéral européen et où l'Europe est davantage qu'une simple confédération, on a nécessairement affaire à quelque chose d'assez hybride. Mais si vous voulez, ça n'est pas la même question qui serait posée parce que dans un cas, on demanderait est-ce que vous approuvez un traité qui a la valeur d'une constitution. Dans notre cas, on demande d'approuver un traité.
Mais c'est bien pour ça que je vous dis que je ne sais pas quelle serait la différence. Simplement, le vote des Français. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que les Français ne sont pas idiots. Ils ne font pas que de la sémantique. Ce qui est important pour eux,
Moi, je suis un peu idiot, je fais de la sémantique.
Non, mais attendez.
Non, je crois que c'est le prénom fait l'idiot.
je pense qu'effectivement...
Ça fait rire, Jacques Généreux, mais...
Il y a une valeur importante au terme constitution. Il y a une valeur morale qui n'est pas que juridique. Au terme constitution. Donc en cela, le fait de ne pas avoir un traité, mais une constitution, change de nature. Ce qui d'ailleurs, moi, ne me gênait pas, c'était pas qu'on ait une constitution, c'était cette constitution que je contestais.
Oui, mais il y a beaucoup de gens qui sont gênés dans les gens qui ont voté non.
Donc voilà, c'est pour ça que
je vous dis. Et qui ont voté non pour ça.
Voilà, alors premièrement, il y a ça. Deuxièmement, un traité dans l'Union européenne doit être modifié à l'unanimité et de ce point de vue s'apparente à un acte juridique très proche d'une constitution. Donc voilà, je vous dis simplement, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai la certitude que le peuple français voterait non. Je pense que oui, mais en tout cas, il est légitime de lui redemander son avis.
Bon, dernier point sur ce sujet. On aborde le Parlement. Jacques Généreux, très vite.
Juste un mot, quand je dis amicalement que Philippe Reynaud fait l'idiot, c'est que c'est vraiment jouer sur les mots. Les deux traités sont identiques. Il y avait deux façons de faire. La première, c'était de dire on prend tous les traités existants et on les met dans un nouveau traité unique. Ça a été la démarche qui a abouti au non français. Et l'autre façon de faire, c'est de dire on prend ce qu'on a négocié dans le traité constitutionnel européen et on le réintègre dans les nouveaux traités. Bon,
voilà.
Donc c'est le même traité. Alors après, qui s'appelle constitution ou pas, ne change strictement rien à la nature et à la valeur juridique des traités. Donc
exactement.
Ça n'a aucune espèce d'importance. Mais cela dit, il faut bien comprendre qu'une partie des raisons pour lesquelles les gens ont dit non aussi, c'est précisément parce que ces traités ne sont pas une constitution, ne commencent pas à ressembler à une constitution qui impliquerait, je le précise, justement, que ce ne soit pas révisable qu'à l'unanimité. Une constitution d'une communauté politique doit pouvoir être révisable autrement qu'à l'unanimité, parce que sinon, ça veut dire qu'une génération donnée a décidé pour toutes les générations futures de ce que seraient leurs règles du jeu. Donc le problème, c'est que ça n'était pas une constitution, ça en avait le nom, mais ça n'était pas une constitution. Et pour les pro-européens, dont je suis, et notamment de gauche, nous aurions besoin d'un embryon de constitution qui serait des règles du jeu politique, mais révisables autrement qu'à l'unanimité. Alors évidemment, on n'a pas ça.
Parlement européen, est-ce que vous vouliez qu'on en dise un mot, Marie-Noëlle Lienemann ? Vous êtes, je l'ai dit, donc parlementaire et déjà depuis plusieurs années, réélu plusieurs fois. Plusieurs choses à dire sur ce Parlement mal connu, au fond, que vous allez nous aider peut-être à mieux découvrir. D'abord, on a souvent le sentiment qu'au Parlement européen, on prend des décisions qui ne sont pas forcément prises au niveau des États, notamment en matière sociale. On sait qu'assez souvent, le Parlement s'est distingué sur des sujets en faveur, par exemple, d'un marché unique plus social. Vous l'avez...
Ah oui, enfin, pas vraiment. Hein.
Pas vraiment, d'accord.
Non.
C'est annoncé
non,
comme
le
tel
Parlement.
Par eux.
Non, mais pas du tout.
C'est vrai que vous pouvez le contester parce que je faisais référence et j'allais l'ajouter à un rapport qui avait été demandé à l'Union, par l'Union à Jacques Toubon. Donc peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ses conclusions qui effectivement arrivaient vers, dans le sens d'un marché unique qui était plus social. Autre chose, mais vous allez me dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ce que je rapporte là, hein, bien sûr. Autre particularité aussi intéressante, je trouve, au Parlement européen où on contrôle de près, par exemple, l'assiduité de ses députés, où l'on souhaite qu'ils soient présents et qu'ils viennent et que leur mandat doit être conduit de manière extrêmement régulière et strictement contrôlée. Et vous allez nous dire là encore si ça vous paraît une bonne chose, d'autant que les élus français ont la réputation de sécher assez souvent les séances plénières. Troisième question enfin, peut-être plus sérieuse mais importante, les prérogatives, les pouvoirs qui sont donnés à ce Parlement, le nombre des députés également attribués à chaque pays. On sait qu'il fait question du côté de l'Italie et de la Pologne, mais c'est en passe, semble-t-il, d'être résolu ces jours-ci à Lisbonne. Là encore, sur toutes ces questions, souhaitez-vous que l'on parle plus souvent du Parlement européen, pour le dire de cette manière, et souhaitez-vous qu'il ait plus donc de pouvoir, d'influence ?
Alors,
y compris sur les citoyens qui le connaissent mal, je répète.
Oui, alors d'abord, premièrement, le Parlement européen a un énorme pouvoir, puisque c'est la codécision. Alors, ce n'est pas tout à fait le pouvoir d'une assemblée, mais ce n'est pas la dernière roue de la charrette. Si une décision européenne doit passer, sauf pour la défense, sauf pour la politique agricole commune, où c'est plus compliqué selon le secteur, il faut l'accord du Parlement européen. Ou la politique étrangère aussi, qui n'est pas de la compétence, mais enfin, celle de l'Union n'est quand même pas d'une efficacité fabuleuse. Donc, sur l'ensemble des politiques, notamment des politiques intérieures, l'écologie, le marché, le fameux grand marché, libre la concurrence, les aides d'État, la dérégulation de services publics, Bolkestein, tout ça, il faut que le Parlement européen codécide. Et donc, il pourrait être un lieu d'équilibre des pouvoirs où on avance justement plus dans un sens de l'intérêt général, de la régulation, du social, de l'écologie. Alors, pendant longtemps, sur l'écologie, il a été très en avance. Depuis l'arrivée des nouveaux entrants, c'est beaucoup plus difficile parce que nous savons que pour eux, les retards sont accumulés et les ressources ne sont pas toujours au rendez-vous.
Oui, et donc, les priorités ne sont pas forcément les mêmes, bien entendu. Bon.
Mais sur ce terrain écologique, on peut dire que c'est, en tout cas, le Parlement européen est souvent bien en avance par rapport à la France. Ça, c'est clair. Mais alors, sur le social, à part avoir demandé la création d'un fonds de modernisation pour les cas extrêmes de restructuration où on va donner des aides aux salariés, franchement, sur les règles sociales, on a eu les belles périodes des années 90 où notamment sur les conditions de travail, l'hygiène au travail, les normes de santé au travail, on avait obtenu des avancées. Franchement, depuis, sur le social, c'est l'encéphalogramme plat sur l'ensemble des politiques européennes, il faut bien le dire. Hein. Et donc, la dérégulation, ils ont voté comme un seul homme, la dérégulation de la poste, notamment du petit courrier, puisqu'il restait les courriers de moins 50 grammes, que même aux États-Unis, c'est une agence fédérale publique unique qui gère la garantie de la distribution des petits courriers. Et là, comme un seul homme, à part les Français, les Belges et notamment les socialistes, tout le monde a voté une dérégulation de la poste. Dérégulation du fret, c'est déjà fait, mais du trafic passager, même en cabotage, en petite distance, incapacité d'obtenir une réglementation sur le temps de travail. Le Parlement européen peste de son côté, mais crée aucun rapport de force face à la Grande-Bretagne qui essaie d'éviter qu'on on limite le temps de travail. Mmh. Tout le Parlement européen aujourd'hui est un Parlement extrêmement conservateur, où la majorité est conservatrice, extrêmement libérale et, de mon point de vue, très décalée du peuple.
Éric Mandonné, donc, ça a effectivement des propos qui contredisent un petit peu ceux qui avaient été rapportés par Jacques Toubon, qui parlait au contraire d'un Parlement européen qui avait tiré la leçon du divorce entre les institutions européennes et les citoyens européens.
Bah, écoutez, je ne vois pas.
Et vous ne le voyez pas, et pourtant vous êtes sur place. Éric Mandonné.
Tout dérégulé, tout baigne.
Une question sur l'évolution du Parti socialiste et l'évolution de la gauche. On a vu sur les deux grands sujets d'actualité de la semaine que le Parti socialiste était obligé de chercher un point de consensus sur la forme parce qu'il était en désaccord au sein même du parti sur le fond. Dans la tribune que vous avez co-signée avec Paul Quillès à la fin de septembre dans Le Monde, Vous écrivez « L'unité de la gauche est la clé de son renouveau à condition de redéfinir un cadre idéologique ». Et ensuite, vous dites « L'unité doit permettre un rééquilibrage à gauche » et vous appelez de vos voeux une nouvelle organisation fédérant tous ces courants de la gauche.
Oui.
Est-ce que c'est parce que vous êtes désormais minoritaire au sein du Parti socialiste que vous souhaitez, en quelque sorte, par l'extérieur, ce rééquilibrage à gauche comme un moyen de lutter contre une dérive centriste que vous dénoncez également dans cette tribune ?
Oui, alors je suis minoritaire, je n'en sais rien dans le Parti socialiste. Parce que le contournement par l'extérieur, il a eu lieu avec la candidate et la campagne. Jamais, mais au grand jamais, aucun vote au sein du Parti socialiste n'a voté en faveur d'un tropisme au centre et d'une alliance au centre. C'est même l'inverse. Au dernier congrès, on a voté strictement l'inverse. Pendant la campagne de désignation interne, quand Laurent Fabius a posé la question des alliances en disant « Est-ce que vous êtes prêt à dire que jamais vous ne ferez un gouvernement avec le centre ?» On lui a dit « Mais la question ne se pose pas, on a toujours été pour l'union de la gauche, etc. » Donc moi, vous dites que, que je suis minoritaire, je n'en sais rien. Et le contournement du Parti socialiste s'est fait justement par ceux qui veulent nous imposer de l'extérieur une autre ligne. Alors, pour ma part, pourquoi je suis pour l'unité ? D'abord, je constate que chaque fois que la gauche est arrivée au pouvoir, elle n'est arrivée qu'une seule façon, c'est en unifiant les forces de gauche, en rassemblant les forces de gauche, et en créant une dynamique unitaire autour de cela. Et non seulement elle est arrivée au pouvoir, mais elle ne s'est jamais, quand elle est en crise politique, elle ne s'est jamais rénovée que par ce double mouvement d'une dynamique unitaire qui lui permettait de mieux incarner la réalité de ce qu'on pourrait dire le peuple de gauche, les hommes et les femmes qui se sentent à gauche dans ce pays, et en même temps, un cadre pour travailler en commun des propositions. Pendant longtemps, et ça a été en cela qu'on doit fermer un cycle, et que je pense qu'on a à l'excès traîné sur un cycle qui était une forme d'unité de la gauche qui n'était plus adaptée au monde d'aujourd'hui, où on était simplement dans un accord électoral de deuxième tour avec des propositions minimales, et que, si je puis dire, on a épuisé le cycle d'Épinay, qui était l'unité des socialistes d'un côté et l'union de la gauche autour d'une plateforme programmatique. Je pense que le temps est venu parce que le Parti communiste s'est affaibli, parce que le monde a changé autour de nous, parce que la gauche prend des configurations nouvelles, les écologistes, les altermondialistes, et beaucoup de gens qui sont nulle part, qui ne se retrouvent pas dans les partis. Nous avons besoin de trouver une unité idéologique. Et de ce point de vue, je trouve qu'on s'apparente davantage à la période de 1905. Où il y avait un éclatement des structures socialistes, et c'est la dynamique unitaire qui leur a imposé de redéfinir une doctrine, une pensée, un regard commun, qui leur a permis de retrouver un nouveau souffle et une capacité de peser sur le cours de la politique française. Je pense qu'on doit refaire cela.
Jacques Généreux, Philippe Reynaud veulent tous les deux vous parler. Oui. Alors, je les laisse décider.
Marie-Noëlle, j'ai un petit doute là sur la référence à 1905, parce que justement, au début du siècle, on était dans une situation où il n'y avait pas de parti socialiste, il y en avait plein. Enfin, on a un mouvement totalement éclaté, bon, réunifié par Jaurès. Et donc, je suis en train de me demander, en considérant la période actuelle, si malheureusement, on n'est pas obligé de connaître d'abord l'éclatement pour qu'on soit exactement dans la situation que vous dites, qui soit celle du rassemblement. Autrement dit, vous le savez bien, enfin, on est bien placé pour le savoir, qu'au sein même du Parti socialiste, c'est pas une stratégie qui est partagée par tout le monde. Et qu'il y a évidemment aussi dans ce Parti socialiste des éléments, des leaders, des éléments de courant qui se verraient bien dans un parti démocrate à l'italienne, là, comme celui qui vient de se former, de centre-gauche, et un peu en quelque sorte débarrassé de l'aile gauche du parti qui, à ce moment-là, irait faire autre chose ailleurs. Et donc la question est... Est-ce que vous croyez raisonnablement, est-ce que vous croyez en fait qu'il y a des chances raisonnables pour éviter cet éclatement en fait du PS avant qu'une recomposition à gauche ne soit possible ?
Marie-Noëlle Lienemann,
je ne souhaite pas cet éclatement du PS. Je ne le souhaite pas pour la raison simple, c'est que le système institutionnel français fait que si vous avez d'un côté un espèce de parti démocrate comme vous le décriviez à l'italienne ou même à l'américaine, et qu'on est de l'autre côté un parti de gauche, pour en prendre une comparaison, le parti Die Linke en Allemagne, et que le fossé se creuse entre ces deux partis, ce qui sera la tentation naturelle une fois qu'on se divise, et ben la gauche n'arrivera pas au pouvoir. Parce qu'en plus, le système de la Ve République fait que c'est le parti dominant à gauche qui a le candidat à la présidentielle. Et ce candidat à la présidentielle finit par après figer, et encore plus avec les dérives institutionnelles que nous connaissons, le cap politique de la gauche. Et si ce cap politique est décalé de la réalité sociologique, politique et culturelle de la gauche, il ne gagne pas.
Oui, mais Marie-Noël,
et donc, personnellement,
ma question était, est-ce que vous pensez que c'est possible, justement, que vous soyez contre, ça, on conçoit.
Est-ce qu'on peut l'éviter,
c'est ça la question.
Bien sûr, on peut l'éviter. Si les hommes et les femmes de gauche, qui sont aujourd'hui émiettés, ne s'unissent pas dans ce combat unitaire pour faire pression sur l'ensemble du Parti socialiste, pour qu'il accepte un grand mouvement nouveau d'unité de l'ensemble des forces de gauche. Et si chacun est en train de cultiver sa chapelle en se disant « Youpi, je vais récupérer les scories de ce qui aura été déçu de chez l'un ou de chez l'autre », eh bien, évidemment, le rapport de force ne sera pas suffisant pour peser de tout son poids pour que l'ensemble du Parti socialiste soit amené à cette évolution qui était d'ailleurs celle que fait François Mitterrand en son temps et qui, à chaque fois, a été la seule chance pour la gauche et pour le Parti socialiste de se rénover.
C'est donc clair.
Je pense Philippe que Renaud. C'est pourquoi je disais l'unité est un combat. Et commençons à écrire noir sur blanc sur quoi on est prêt à se battre en commun, dont l'idée d'une charte de l'unité.
Est-ce que vous ne pensez pas, moi ce qui m'avait frappé dans cette émission même, lorsque nous avons reçu un de vos camarades qui est Vincent Peillon, c'est le fait qu'il y a, me semble-t-il, à l'intérieur du Parti Socialiste, des gens assez déterminés et qui me semblent représenter quelque chose, qui vont exactement dans le sens inverse du vôtre. Vincent Peillon, c'est significatif. Vous avez parlé de 1905. Vincent Peillon nous a dit qu'il avait beaucoup, comme vous, d'admiration pour Jean Jaurès, mais que simplement ça commence à tourner mal justement en 1905. Ça me faisait penser à ce professeur de droit romain pour qui
oui, c'est le jour où Jaurès devient vraiment socialiste. C'est
oui,
ça qui
mais probablement un peu comme ce, comme les gens qui pensent que la République romaine ça tourne mal après la Deuxième Guerre punique. Mais c'est quand même assez significatif. C'est pas ça va au-delà, me semble-t-il, de Vincent Peillon. C'est que il me paraît pas du tout certain aujourd'hui que vous pouviez considérer que le centre de gravité de la gauche socialiste se trouve là où vous voulez qu'il se trouve.
Je ne vous ai pas dit de la gauche socialiste, je vous dis que le centre de gravité de la gauche. Et le grand problème du PS, c'est qu'il n'est plus au centre de gravité de la gauche. Alors, soit il considère que ce n'est pas grave, ben il perdra.
Savez,
il ira dans le mur.
Pardonnez-moi, mais le centre de gravité de la gauche à la dernière élection présidentielle, il ne s'est pas déplacé dans ce sens. Parce que, étant donné que l'extrême-gauche elle-même a fait une campagne contre Nicolas Sarkozy en le présentant comme un mélange de George Bush et de Mussolini, une bonne partie de l'extrême-gauche a voté directement pour Ségolène Royal. Et ce à quoi on a assisté, c'est plutôt au déclin de la gauche radicale.
Mais vous ne pouvez pas avoir une vision aussi, algébrique des choses électorales. Parce qu'avec le même raisonnement, je pourrais vous dire que moi, dans ma famille, je le dis souvent, j'ai plein de gens qui ont voté Bayrou. Ils n'avaient jamais voté de leur vie autre chose que socialiste. Et ils n'ont pas du tout voté Bayrou parce qu'ils sont centristes. Mais même, ils ont horreur du centre. Ils ont voté Bayrou pour une raison simple, c'est qu'ils considéraient que Ségolène Royal, à tort ou à raison, n'avait pas la carrure, notamment les plus âgés de ma famille, n'avait pas la carrure de chef d'État. Considérer qu'elle n'était pas structurée à gauche et qu'elle était une sorte d'aventure.
Mais oui, gens qui trouvent que Ségolène Royal n'est pas assez à gauche votent au centre, il y a quand même un
mais
problème.
Mais exactement, parce qu'ils l'ont fait pour une autre raison.
On ne va pas refaire la.
Attendez, j'explique, je vais au bout parce que ça nous ramène au centre. Pour une raison simple, c'est qu'ils considéraient que François Bayrou avait des chances de battre Nicolas Sarkozy. Voilà. Donc, la vision purement statique d'une élection ne peut pas être la boussole. Je reprends un exemple historique là aussi. Si on avait pris la boussole des élections de 69, le PS devait s'allier au centre. Le PC était à 20%, le PS dans les choux, et c'était Poher qui était la grande force montante. Fort heureusement, ce qui a prévalu est autre chose, c'est une analyse politique, sociologique, culturelle et qui amène à penser qu'il y a un bloc dans la société française qui est percuté de plein fouet par le capitalisme financier, qui est percuté de plein fouet par la mondialisation, qu'il y a un front sociologique à renouer entre les producteurs par rapport à ceux qui vivent de la rente, du placement, etc. Et que ça amène à solidifier un bloc de gauche autour de cette perspective.
Oui. Et donc, c'est pas François Mitterrand, c'est Jean Peuprenne là qui parle.
pour une part, mais François Mitterrand a bien dû, pour le rapport rapport de force politique, parce qu'ils savaient que c'était la seule façon d'être élu, choisir cet axe stratégique-là. Et c'est bien celui-là qui a fait la force du Parti Socialiste.
Philippe Reynaud, récemment. On est obligé d'en rester là, mais Philippe Reynaud aurait pu aussi rappeler que nous avions la semaine dernière Patrick Braouezek, dont au fond le discours n'était pas très éloigné de celui que vous tenez aujourd'hui, Marie-Noëlle Lindemann. J'ai une toute dernière question à vous poser, elle est rituelle dans cette émission. On connaît vos combats et votre passion pour toutes ces questions, et manifestement, la discussion n'est pas terminée au sein du PS et ailleurs. Cependant, quels sont vos loisirs? Nous sommes en principe samedi matin. Comment les occupez-vous ?
La cuisine. J'adore cuisiner, j'adore inviter des amis, j'adore refaire le monde autour d'une bonne table, d'un bon vin et de l'art de vivre à la française. Je crois à l'identité française au sens de son exception républicaine, mais aussi de son exception culinaire, la diversité dans une République unie.
Merci infiniment, merci beaucoup. Vous étiez donc à Radio à France Bleu dans le Nord-Pas-de-Calais, votre région. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je renvoie à la bibliographie pour Au revoir Royal, votre dernier titre chez Perrin, et d'autres titres que vous avez publiés également qui intéresseront aussi sur beaucoup de sujets, dont le logement d'ailleurs, pas seulement les questions strictement politiques. Jacques Généreux également a publié, on le sait, Philippe Reynaud aussi. Tout ceci sera sur notre site franceculture.com au rendez-vous des politiques grâce à Laurence Genepin, que je remercie beaucoup, qui a préparé et documenté notre émission. Et merci également, bien sûr, à Éric Mandonné, notre partenaire avec l'Express. C'est Daniel Finot et Gilles Gaillard qui ont réalisé notre émission. Très bonne journée à tous. À présent, c'est l'œil du larynx.